9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Sarah Saïdi.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes journaliste, vous avez été correspondante en Iran de 2016 à 2019. Vous en avez rapporté un livre très intéressant d'ailleurs, intitulé « Portrait de Téhéran ». C'est paru chez Ikari Édition. Il y a déjà eu des manifestations en Iran, mais y a-t-il eu déjà des manifestations de cette ampleur dans des villes aussi nombreuses que celles auxquelles on assiste aujourd'hui ?
En Iran, en fait, comme vous l'avez dit, il y a eu beaucoup de manifestations depuis 40 ans, depuis l'instauration de la République islamique. Donc il y a eu, on se souvient récemment de celle de 2019, qui a été provoquée par la montée des prix du carburant. Il y a également eu celle de 2009, et c'était celle qui était vraiment, pour le coup, très, d'une ampleur assez exceptionnelle quand il y a eu la réélection de l'ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad. Donc les manifestations d'aujourd'hui sont d'ampleur assez importante, de ce qu'on en sait, parce qu'il faut savoir aussi que la coupure Internet ne permet pas d'avoir une idée très très précise du nombre de manifestants. Effectivement, quand il y a des manifestations en Iran, ça se propage assez rapidement dans plusieurs villes. Donc Téhéran, forcément, puisque c'est la capitale, mais également le Kurdistan, qui en général, ces dernières années, fait partie des premières villes à être touchées par les émeutes, parce que c'est la ville la plus pauvre de la région la plus pauvre de l'Iran. Donc j'ai envie de vous dire que l'ampleur est assez importante, mais on ne peut pas, à cause de cette habitude, de cette fâcheuse habitude maintenant du régime de couper Internet, de vraiment se rendre compte d'à quel point les manifestants sont nombreux ou pas.
On sait qu'il y a beaucoup d'étudiantes, il y a des jeunes femmes qui manifestent sans leur foulard, qu'elles ont brûlé, parfois même en public, hein, sous les applaudissements. On sait que ça touche plusieurs couches de la population, plusieurs âges aussi. Il y aurait des parents qui manifesteraient également. On sait aussi que la violence est déjà montée d'un cran. Il y a plusieurs morts. Les réseaux sociaux qui ont été fermés, j'ai envie de vous demander, ils ne sont pas surveillés comme en Chine, les réseaux sociaux en Iran? Il peut s'y dire des choses?
Alors, en règle générale, en Iran, vous avez pas mal de sites qui sont interdits, donc qui sont accessibles par la plupart des jeunes, parce que les jeunes sont quand même très, très futés. Donc, il y a l'utilisation de VPN qui permet, donc de réseaux privés finalement, qui permettent aux jeunes d'accéder à ces sites qui sont bloqués par le gouvernement, notamment Twitter, par exemple. Par contre, aujourd'hui, quand ils coupent Internet, ils coupent l'Internet international. En fait, l'Iran, depuis 2009, justement, depuis les manifestations suite à la réélection de Mahmoud Ahmadinejad, a cherché à rejoindre un petit peu le modèle chinois et à avoir deux Internets. Un Internet un peu national qui pourrait continuer à fonctionner et qui serait beaucoup moins puissant, et un Internet international qui donc pourrait être coupé, donc on coupe le robinet pour que les gens ne puissent pas avoir accès à l'extérieur. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les gens sont dans un huis clos, et du coup, effectivement, la répression peut être plus importante. Tout est permis, et c'est ce dont les Iraniens ont très très peur. Depuis quelques jours, on voit beaucoup, juste avant la coupure justement, des messages qui filtrent et qui disent « soyez notre voix ». Et qui partagent également des VPN plus forts pour pouvoir contourner justement cette censure d'Internet. Par rapport à la question que vous avez posée juste avant, par rapport aux différentes générations qui se rejoignent, il faut savoir que cette manifestation, ces émeutes-là, ces manifestations-là, ont un point très très particulier, très inédit, c'est que le catalyseur, contrairement aux autres manifestations des années passées qui étaient le pouvoir d'achat plutôt des raisons économiques, cette année et cette fois-ci, c'est vraiment les femmes qui sont à la tête de ces manifestations. Et c'est la colère de ce groupe de population qui aujourd'hui est éduqué et ultra connecté et qui par ailleurs est très combative depuis des années, depuis 40 ans. C'est ce groupe de population, donc les femmes, qui mènent ces émeutes.
Les femmes
et ça,
qui,
c'est vraiment inédit.
Les femmes qui, en Iran, hein, comme dans la plupart des pays du monde d'ailleurs, sont plus diplômées que les hommes aujourd'hui. Et c'est la mort d'une de ces jeunes femmes, Mahsa Amini, âgée de 22 ans, qui a été arrêtée le 13 septembre par la police des mœurs. Alors c'est quoi cette brigade, la sinistre réputation, elle est de plus en plus présente, de plus en plus agressive depuis l'élection de Raïssi à la présidence, j'ai l'impression.
Alors, en fait, il faut savoir qu'en Iran, donc, on a souvent une alternance de conservateurs et de réformateurs. Effectivement, quand les conservateurs sont au pouvoir, la police des mœurs a tendance à être un peu plus agressive parce que, et beaucoup plus présente dans les rues, parce que le gouvernement conservateur va fermer un petit peu les vannes. Donc, va encore plus serrer la population, ce qui est un peu difficile, d'ailleurs, ces dernières années, parce que, bon, la population est déjà... à bout de souffle à cause de l'inflation, à cause des raisons économiques. Donc, c'est très difficile aujourd'hui pour le régime de jouer encore avec... ils ont une très, très faible marge de manœuvre parce que la population risque à tout moment de sortir, finalement, parce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles sortir, en fait. Et par rapport à cette police des mœurs, alors moi, j'étais pendant 3 ans en Iran, donc je suis une femme aussi. Donc, pour le coup, je peux vraiment vous dire que... c'est quelque chose d'assez angoissant, même si moi, en tant que journaliste, j'avais beaucoup moins de risques que toutes ces femmes, parce que j'avais une carte du gouvernement qui me permettait de passer un peu à travers les mailles du filet. Mais les femmes iraniennes marchent dans les rues avec quand même cette peur de se retrouver face à cette camionnette blanche et verte qui pourrait les arrêter pour n'importe quelle raison. Parce que la spécificité de cette police des mœurs, c'est qu'en fait, finalement, on n'a pas vraiment les codes exacts. Alors oui, on doit être couverte de la tête aux pieds. A priori, on ne doit pas avoir, les chevilles, on ne doit pas avoir les cheveux dépassés. Mais ça va bien au-delà de ça, en vérité. Ça va au-delà d'un simple voile, au-delà d'un simple... d'une simple manière de s'habiller. C'est finalement une manière de dominer la population, de dominer la société, de dominer les femmes en leur disant « N'oubliez pas le message révolutionnaire, n'oubliez pas l'idéologie, n'oubliez pas où vous habitez. » Et finalement, ce qui est un petit peu tacitement dit par ces personnes, par cette police des mœurs, c'est finalement les femmes doivent être couvertes complètement, donc mettre un tchador noir et finalement rester à la maison. C'est ça le message en sous-main, finalement.
On fait une pause, Sarah Saïdi, on se retrouve juste après.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Nous sommes avec Sarah Saïdi, qui est journaliste, qui a été correspondante en Iran de 2016 à 2019. Sarah Saïdi, qui réagit évidemment avec nous aux manifestations assez inédites par certains côtés qui se déroulent actuellement en Iran. Alors, dans des séries comme le Bureau des légendes ou Téhéran, qui est une série israélienne, on nous montre une jeunesse iranienne très libre sexuellement, qui se drogue, qui fait des fêtes clandestine, qui écoute de l'électro. Cette jeunesse iranienne, vous l'avez côtoyée, vous la connaissez. Est-ce qu'elle ressemble à ce qu'on voit dans les séries ?
Alors, en Iran, comme dans tous les pays, vous avez des jeunes qui vont abuser, qui vont faire un peu trop la fête, qui vont être un petit peu plus dévergondés que d'autres. Mais finalement, en Iran, la majorité des jeunes en Iran, comme dans tous les pays occidentaux, finalement, on a les mêmes aspirations, celles de vivre une vie, de rencontrer des amis, d'écouter de la musique, de sortir, d'aller boire un verre avec des collègues après le travail. Et finalement, c'est ça qui existe en Iran aussi. Mais la différence entre les pays occidentaux et l'Iran, c'est que tout se fait dans la désobéissance civile. Et ça, je le dis souvent. C'est vraiment cette image que je répète. C'est en Iran, c'est comme si le régime c'était un papa et une maman hyper stricts, des parents hyper stricts, qui empêchaient leurs enfants, donc toute la société, qui imposent des règles très strictes à tous leurs enfants. Et du coup, les enfants, que ce soit la jeunesse en particulier, parce que du coup, la jeunesse est éduquée, enfin, 70% de la population iranienne à moins de 35 ans n'a jamais vu autre chose que la République islamique, mais par contre est éduquée et hyper connectée, donc voit ce qui se passe à l'extérieur. Souvent, ils ont voyagé aussi. Donc pour eux, c'est beaucoup plus difficile encore. Et donc, ils ont envie de faire comme les autres. Ils ont envie de vivre une vie finalement libre. Et du coup, cette désobéissance civile qui est finalement quotidienne, elle se fait un peu plus forte chez eux. Donc oui, les jeunes sortent, oui, les jeunes se retrouvent, les femmes fument, les soirées ont lieu dans les huis clos des maisons. Effectivement, c'est mais pas forcément dans l'abus, pas forcément dans l'abus. La majorité sont sages.
La République islamique d'Iran est une dictature politique et religieuse. C'est donc forcément difficile à évaluer, mais il y a tout de même une partie de la population qui la soutient, qui en est complice. Alors, dans quelle proportion, d'abord, à votre avis, et pourquoi la soutient-elle ? Est-ce que c'est par ferveur religieuse, par nationalisme, par haine de l'Occident ?
On estime environ à 10 à 15% aujourd'hui la population qui soutient le régime. Donc c'est vraiment une minorité, mais c'est une minorité qui a le monopole du pouvoir finalement. Pourquoi ils soutiennent le régime ? Eh ben, j'ai envie de vous dire parce qu'ils continuent de croire en messages idéologiques révolutionnaires qui datent d'il y a 40 ans. Ce sont des gens qui estiment que la République islamique a été instaurée pour protéger l'Iran de l'ingérence étrangère et surtout américaine. Et ils continuent de croire en ce message-là. Et finalement, oui, c'est aussi, j'ai envie de dire, un mélange pour certaines familles, un mélange de tradition et de religion qui fait que c'est très difficile pour eux de s'éloigner de cette idéologie.
Et quand on manifeste aujourd'hui qu'on est blessé, qu'on est frappé, est-ce qu'on peut se faire soigner dans les hôpitaux, par exemple ? S'il n'y a que 15% de la population qui soutient le régime, tout le reste devrait être complice ou en tout cas avoir des sentiments amicaux vis-à-vis des victimes de la répression. Or, je me demande, est-ce que c'est le cas ?
Non, effectivement, la population iranienne est très, très, très soudée. Donc même si vous allez certainement croiser des gens qui ne vont pas participer aux manifestations, qui sont même peut-être contre les manifestations, qui se disent que ce n'est pas une bonne idée de sortir et de manifester, et surtout pas par la violence, et que ça ne changera rien, et que finalement, à part donner des morts et être réprimés, la situation ne changera pas. Il y a énormément de gens comme ça aussi, mais ces gens-là ne vont pas mettre des bâtons dans les roues et ne vont pas... tourner le dos, en fait, à leur propre population. Ça, c'est impossible en Iran. Le lien entre les Iraniens est quand même très, très fort. Donc oui, les gens qui sont blessés peuvent aller aux hôpitaux et peuvent être soignés. La question, par contre, c'est est-ce que quand ils se font blesser, est-ce qu'ils ont le temps de partir à l'hôpital ? Est-ce qu'on ne les interpelle pas dans le même temps ? Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y a aussi des descentes dans les immeubles, c'est qu'ils essayent de terrifier les gens dans les rues aussi en les pointant avec des armes. Ils usent de gaz lacrymogène également. Donc je pense que la situation est quand même très, très tendue. Et tout est fait finalement pour interpeller le plus de monde. Et quand ils les interpellent, on ne sait pas du tout où ces gens-là sont emmenés. Donc c'est là la question. C'est est-ce qu'ils ont le temps, en fait, finalement, de partir à l'hôpital pour se faire soigner ?
Merci, Sarah Saïdi, pour toutes ces explications. Je renvoie à votre livre « Portrait de Téhéran » qui était paru chez Ikari Éditions. On fait une pause. On se retrouve juste après. On va parler d'Yves Saint-Laurent.
Europe 1.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.